20h30, c'est le moment de retrouver le magazine d'archéologie de France Culture, Carbone 14. En archéologie, on ne trouve que ce que l'on cherche. Cet adage s'avère bien vrai. En revanche, dans ce monde impitoyable, il y a ceux qui ont de la chance face aux porteurs d'infortunes, de déveines, voire de revers. Aujourd'hui, dans Carbone 14, notre invité aurait-il eu de la chance ? Non. Il a eu la baraka. Et pour cela, vient bien entendu nous parler de ses trouvailles au cœur de l'Égypte des pharaons. Professeur à l'université Paris-Sorbonne, Grand Prix de l'archéologie 2016 de la Fondation Cino Del Luca, président de la Société française d'égyptologie, Pierre Tallet. Bonjour.
Bonjour.
Nous aurions pu parler du vin, de l'ivresse au dégrisement, comme de la cuisine des pharaons, nous pencher sur les ateliers métallurgiques du Moyen Empire, évoquer l'époque Tinite, voire Sésostris III et la fin de la 12e dynastie, ou encore cette mystérieuse route sud-orientale sous le règne de Ramsès III. Nous nous contenterons de la découverte des plus vieux papyrus de l'Égypte ancienne. Pierre Tallet, faut-il avoir de la chance en égyptologie?
Alors bien sûr, je pense qu'il faut avoir de la chance. Et il faut aussi choisir, je dirais, selon ses goûts, le terrain dans lequel on va pouvoir intervenir. L'intérêt de la zone sur laquelle je travaille depuis maintenant une quinzaine d'années, c'est qu'elle n'avait pratiquement jamais été étudiée auparavant, ce qui permet effectivement de faire parfois des découvertes, malgré tout relativement inattendues, même si elles rentrent dans le champ de ce que l'on pourrait espérer en travaillant sur ces terrains.
C'est-à-dire que vous travaillez en périphérie.
Alors voilà, exactement. On travaille dans des zones qui n'ont pas franchement été étudiées auparavant, dans les déserts égyptiens, sur les bords de la mer Rouge. Et même si les découvertes que nous faisons ne sont pas toujours très spectaculaires, elles apportent de toute façon, année après année, des informations sur un pan de la civilisation pharaonique qui est très souvent méconnu jusqu'ici.
Somme toute, et pour l'égyptologue que vous êtes, l'Égypte ancienne est tellement riche qu'il est difficile de ne pas avoir de la chance.
Très difficile de ne pas avoir de la chance dans la mesure où la plupart du temps, on trouve toujours des choses intéressantes, même si encore une fois, elles ne sont pas forcément spectaculaires sur l'ensemble des terrains qui sont exploités aujourd'hui.
Un site, cela se découvre, mais aussi se redécouvre. Le vôtre fut trouvé par Wilkinson et Burton en 1823, si je ne m'abuse.
Oui, exactement. Pour la première fois, ce sont des explorateurs anglais au tout début de l'égyptologie, je dirais même avant, qui cherchaient à faire un inventaire des sites, qui ont trouvé pour la première fois le site du Wadi El Jarf, en bord de mer Rouge. Ils y ont observé des galeries creusées dans la montagne, ils y ont trouvé des morceaux de bois brûlés, et ont déterminé d'ailleurs que le site devait avoir été des catacombes d'époque gréco-romaine, en fait un site de cimetière, sont influencés par la proximité relative du monastère de Saint-Paul qui se trouve à côté du site antique. Et en fait, ce site a été découvert sans lettres, je dirais, à plusieurs reprises, puisque encore quelques années plus tard, ce sont des pilotes français du golfe de Suez qui sont revenus dans les années 1950 sur les mêmes sites, et probablement d'ailleurs en suivant les indications qui avaient été laissées par leurs devanciers britanniques. Ils ont retrouvé les galeries creusées dans la montagne, à quelques quand même 6-7 kilomètres de la côte. Ils ont retrouvé également les vestiges de poterie, de bois qui se trouvaient dans ces galeries, mais n'ont pas non plus été véritablement capables d'interpréter ces vestiges. Et malheureusement pour eux, en dépit de leur demande de prendre une fouille archéologique sur le site, eh bien, ils sont tombés à peu près au niveau au moment de la crise de Suez et ils ont été obligés d'abandonner le terrain.
En 1823, c'est James Burton qui explore ce site. James Burton, c'est celui qui est rentré dans la tombe KV5 de Luxor.
Exactement.
Qui n'est pas n'importe quelle tombe.
Non, exactement. Donc, en fait, ce sont des explorateurs qui ont trouvé beaucoup de choses, mais en fait, le site du Wadi El Jarf était vraiment quelque chose de périphérique pour eux, je dirais. Et il leur manquait peut-être, à cette époque-là, des informations tout à fait importantes que nous avons maintenant, mais nous n'avons pas beaucoup de mérite à les avoir, car elles découlent d'un travail assez long qui nous permet de comprendre ce à quoi doit correspondre un port égyptien à l'époque pharaonique.
Justement, comment avez-vous eu connaissance de ce site de Wadi El Jarf? Pourquoi l'avoir à nouveau réinvesti?
Alors en fait, c'est une longue histoire puisque j'ai commencé en 1999 un travail archéologique sur le site de Ain-Sourna, qui se trouve lui aussi sur le golfe de Suez, avec un collègue de l'Institut français d'archéologie orientale, Georges Castel. Et nous avons mis progressivement en valeur sur ce site, pendant 10 ans, 15 ans de fouilles, un système de galeries-magasins. C'est-à-dire que ces ports sur la mer Rouge n'étaient pas occupés de façon permanente, mais ils étaient occupés de façon intermittente lorsqu'on avait besoin de les utiliser. Et entre deux expéditions nécessitant une navigation, les embarcations qui étaient employées sur le site étaient tout simplement démontées et rangées à l'intérieur d'un système de galeries. Donc pour chaque port pharaonique de cette époque-là, on peut s'attendre à avoir un système de galeries-magasins à l'arrière du port pour pouvoir entreposer le matériel des expéditions.
Et on connaît désormais beaucoup de ports pharaoniques ?
Alors on en connaît trois. Il se trouve que au même moment que nous découvririons le site d'Ain-Sourna, une équipe américano-italienne sur le site de Mersagawasis, qui se trouve bien plus au sud, sur la côte de la mer Rouge, au niveau de la ville moderne de Safaga, a découvert un port du Moyen-Empire qui a été occupé dans les mêmes conditions pour se rendre au bout de la mer Rouge, dans le pays de Punt, et ils y ont trouvé également un système de galeries-magasins. Donc on connaît maintenant trois ports sur la mer Rouge, deux sur le golfe de Suez, un peu plus au sud, et tous les trois comportent ce même système de magasins aménagés pour stocker les bateaux.
La mer Rouge est, semble-t-il, depuis quelques années, l'objet de nouvelles recherches internationales. Les Anglais, une mission italienne dirigée notamment par Fatovich, y travaillent et exhument généralement un mobilier qui est très bien conservé.
Alors effectivement, ce sont des sites qui ont souvent livré du matériel relativement spectaculaire. Dans le cas de Mersagawasis, il y avait de très nombreux fragments d'embarcations qui ont été découverts dans les galeries ou à proximité, des ancres de bateaux. Ils ont également trouvé des ostracas, des stèles qui sont gravées en calcaire et qui racontent les expéditions sur la mer Rouge. Dans le cas du site d'Ain-Sourna, nous avons trouvé aussi des embarcations carbonisées qui avaient été d'abord rangées dans les galeries et qui étaient restées, quelqu'un y a mis le feu. Donc on retrouve les embarcations carbonisé, mais avec suffisamment de bonne préservation pour pouvoir quand même étudier les bateaux. Et sur ce site du Wadi Al-Jarf, on a également un matériel absolument extrêmement important, des jarres de stockage, des fragments d'embarcation, des empreintes de seaux, des tissus, des outils en métal, en pierre. Enfin, véritablement, une masse d'informations, une masse documentaire qu'on ne pourrait pas probablement imaginer ailleurs.
Pourquoi justement cet état de conservation très très privilégié ? Parce qu'on est quand même en bord de mer, donc dans un milieu relativement humide, c'est bien moins propice que le désert.
Alors on est quand même dans le désert, et ces systèmes de galeries sont un petit peu en retrait par rapport à la côte, donc c'est quand même pas tout à fait aussi humide que le bord de mer proprement dit. Et puis je dirais qu'il y a des facteurs qui sont favorables à la bonne préservation du matériel, qui sont d'une part le fait que les archéologues ne sont jamais passés auparavant, il n'y a pas eu vraiment souvent de réoccupation des lieux. Alors c'est valable en particulier pour le Wadi El-Jarf. Le site du Wadi El-Jarf a été occupé au début de la 4e dynastie, probablement sous le règne de Khéops, puis il est abandonné et il n'y a aucune réoccupation successive. Dans des conditions pareilles, évidemment, le site est pratiquement dans l'état où l'ont abandonné les Égyptiens quelques millénaires plus tôt.
La fouille de ce genre de structure, ces galeries, ne doit être bien sûr pas du tout évidente. Vous dites avoir affaire à du matériel expéditionnaire, c'est bien ça ?
Alors effectivement, les fouilles sont pas toujours faciles. Sur le site d'Ain-Sourna, les galeries étaient très fracturées, très abîmées et avaient tendance à s'écrouler au fur et à mesure que nous les fouillions, donc c'était très compliqué.
Vous êtes obligé de rentrer sous terre.
Alors on rentre sous terre, elles sont creusées à l'horizontale, ce sont des galeries creusées à l'horizontale, assez larges, assez hautes, et tout dépend évidemment de l'état de préservation de la roche qui les tient. Sur le site du Wadi Jarf, en fait, ces galeries sont très solides et se fouillent relativement sans difficulté. Elles sont simplement réensablées depuis très très longtemps, donc il faut évacuer une grande quantité de sable avant d'arriver sur les niveaux d'occupation archéologique proprement dit.
Et comment se présentent ces niveaux d'occupation ? Tout ça est encore bien rangé, bien structuré ?
Alors généralement, quand même, il y a eu une perturbation. Souvent, les choses ont été cassées, écrasées. Il y a certainement eu quand même des visites de ces galeries à certaines périodes. On peut penser que dans ces déserts qui se trouvent à l'est de l'Égypte, il y avait des populations de bédouins aussi qui fréquentaient les lieux. Il est probable que certaines des destructions anciennes peuvent leur être imputées, notamment l'incendie des embarcations à Ain-Sourna, vient probablement d'eux à une époque ancienne. Mais de façon générale, on retrouve quand même une couche archéologique très concentrée dans un matériel qui correspondait à celui des expéditions qui partaient sur la mer Rouge, et en tout cas à ce que les Égyptiens ont bien voulu nous laisser, parce que bien évidemment, avant de s'en aller pour la dernière fois, eux ont récupéré tout ce qu'ils estimaient pouvoir encore être utilisé.
Pierre Tallet, vous me disiez que vous aviez affaire à du matériel expéditionnaire. C'est quoi du matériel expéditionnaire ?
Eh bien, ce sont tous les bateaux, d'abord les bateaux eux-mêmes, les bois de bateaux, le gréement de ces embarcations, mais aussi les jarres que l'on pouvait mettre à bord, notamment pour constituer des réserves de grains, des réserves d'eau. Et nous avons justement au Wadi Jarf tout un trousseau de jarres de containers multifonctionnels qui manifestement ont été fabriqués sur place, justement pour pouvoir équiper les bateaux et placer ces jarres comme contenant pour la cargaison du bateau.
Et vers où partent ces expéditions ?
Alors, dans le cas du Wadi Jarf, c'est évident qu'ils allaient au Sinaï. En fait, ils ne faisaient que quelques kilomètres, quelques dizaines de kilomètres pour traverser le golfe de Suez. Ils se rendaient au sud de la péninsule du Sinaï, qui a été d'une importance absolument stratégique, puisque c'était pour les Égyptiens la plus grosse ressource de cuivre dont ils pouvaient disposer. Et comme nous sommes à une époque où les Égyptiens construisaient de monstrueux monuments en pierre, comme les pyramides de Giza, ils avaient un besoin tout aussi impératif de cuivre pour pouvoir faire les outils et tailler l'ensemble de ces gros blocs de pierre.
Le site, et c'est tout son intérêt, serait daté d'une période ancienne, donc la 4e dynastie et donc de Khéops.
Alors effectivement, ce que l'on a, c'est vraiment le tout début de la 4e dynastie. Et pour l'instant, l'ensemble du matériel inscrit que nous avons découvert, dont les papyrus font bien sûr partie, eh bien, est au nom du roi Khéops. Nous avons des inscriptions sur les jarres qui mentionnent ce roi, des marques de contrôle sur les gros blocs de calcaire qui ont été aménagés pour fermer les galeries qui mentionnent également Khéops. Les équipes d'ouvriers sont souvent nommées d'après le nom du roi. Nous avons des empreintes de sceaux de Khéops. En fait, tout est au nom de ce seul roi. Alors, on peut supposer quand même que peut-être son prédécesseur, le roi Snéfrou, qui est le fondateur de la 4e dynastie autour de 2600 avant Jésus-Christ, a peut-être déjà occupé le site. Mais pour l'instant, nous n'avons même pas véritablement d'informations concluantes à ce sujet.
Alors, comment arrivez-vous à le supputer ?
Alors, le roi Snéfrou serait logique pour ce site parce qu'en fait, on se trouve au débouché de piste qui relie la mer Rouge à la vallée du Nil. Et à l'endroit où aboutit la piste, on a une pyramide de Snéfrou qui est la pyramide de Meidoum. Donc, on pourrait penser qu'effectivement, la présence à l'arrière de ce système portuaire d'un gros centre administratif sous le règne de Snéfrou aurait pu justifier la première installation sur le site. Mais pour l'instant, tout ce qu'on a est de Khéops, et on a même l'impression que l'un des successeurs assez rapides de Khéops, le roi Khéphren, est celui qui a véritablement réformé le site et l'a abandonné pour créer un nouveau système portuaire à Ensourna, 100 km plus au nord sur le golfe de Suez.
Pierre Tallet, hormis sa gigantesque pyramide, la documentation sur Khéops semble particulièrement peu fréquente. Par exemple, on ne connaît que une ou deux représentation du pharaon ?
Alors effectivement, c'est un paradoxe qui a souvent été mis en valeur par les égyptologues, que le roi Khéops, ce roi qui a construit la plus grande pyramide d'Égypte, ne soit connu que par une petite statuette d'ivoire de quelques centimètres. En fait, il y a d'autres documents sans doute, y compris des statues non épigraphiées qui le représentent. Mais ce qui est vrai, c'est que paradoxalement, en dépit de l'évidence de la pyramide elle-même, on connaît très peu d'informations sur le règne, très peu d'informations sur son extension et encore moins d'informations sur l'administration au cours de ce règne. Et c'est justement l'intérêt de la documentation qui est en train d'être mise au jour sur ce site du Wadi El Jarf, puisque nous rentrons finalement au travers des papyrus qui ont été découverts dans le système administratif de Khéops. C'est ce qui sous-tend en quelque sorte les activités qui ont été lancées par ce roi.
C'est en tout cas un règne extrêmement important, puisque c'est durant à peu près cette époque que le système pharaonique se stabilise, pourrait-on dire ?
Je pense que ce règne et celui de son prédécesseur sont véritablement le moment de l'histoire de l'Égypte où l'administration atteint véritablement son apogée. Et véritablement, on a besoin d'un système administratif absolument efficace si l'on veut se lancer dans des constructions aussi monumentales que celles qui ont été successivement construites par Snéfrou puis Khéops. Snéfrou, c'est trois pyramides monumentales d'à peu près 100 mètres de hauteur. Et Khéops, bien sûr, son successeur, c'est la plus grande pyramide, 146 mètres de haut à Giza.
Vous parlez d'apogée pour ce système-là, mais on est quand même au troisième millénaire. C'est donc très très tôt.
Oui, c'est très tôt, mais je pense que dans les civilisations comme la civilisation pharaonique, on peut peut-être expérimenter, enfin, peut-être que des rois fondateurs ont expérimenté eux-mêmes leurs propres limites. Je pense que autant de Khéops, on les a pas atteintes. Finalement, ce roi peut tout se permettre, des monuments gigantesques, et on peut le voir aussi d'après les papyrus. On voit très bien qu'il est capable aussi de modeler l'espace à son image en fonction des besoins qu'il a.
France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier.
Pierre Thalès, des jars porteraient le nom, ou du moins la mention, les connus du double faucon d'or. Qu'est-ce que cela signifie?
Alors, ces jars sont des jars qui sont cuites sur place. On a retrouvé les fours qui permettaient de les fabriquer, en quelque sorte. Et ces jars sont des containers qui sont associés aux embarcations qui fréquentaient le site. La marque qui est portée quasiment systématiquement sur ces jars, et nous en avons retrouvé plusieurs centaines, nous avons plusieurs noms d'équipes qui apparaissent sur ces jars. En réalité, au moment même où le récipient était fabriqué, on l'attribuait à une équipe qui fréquentait le site. L'équipe en question, les connus du double faucon d'or, c'est une équipe qui tire son nom du nom du roi Khéops, puisque le double faucon d'or est l'un des cinq noms que porte ce roi. Il s'agit donc d'une équipe, sans doute de bateliers, relativement privilégiés. Ils sont véritablement connus du roi. Cela veut dire probablement qu'ils ont été à un moment donné en présence du roi lui-même.
Vous me parliez de sceaux, de cachets. Les marques de contrôle du pharaon mettent surtout en lumière que le site est très contrôlé par l'administration.
Alors ce qui est clair, c'est qu'on est vraiment au cœur du système administratif égyptien. Dans un site de même période qui serait plus excentré, on pourrait ne pas trouver du tout d'informations écrites. Ça aurait été une possibilité. Et dans ce cas très très précis, nous avons été surpris de voir l'abondance des informations inscrites que nous trouvons partout. Tout est inscrit. On a des inscriptions sur des outils en métal, sur des outils en pierre. On a même des inscriptions sur les fragments de bateaux, des inscriptions qui permettent parfois sans doute de procéder au remontage de ces embarcations. Et bien entendu, toute une série d'empreintes de sceaux qui scellent des sacs, qui scellent des boîtes, un matériel donc qui est fourni par l'administration qui en contrôle l'usage de façon très précise.
On peut penser que ces galeries aient été scellées justement avec des tampons au nom de Khéops.
Alors elles ne sont pas vraiment scellées comme ça. Elles font l'objet d'un système de fermeture monumental. Des équipes de travailleurs sur place ont taillé des gros blocs de calcaire de plusieurs tonnes, ils les ont traînés sur des rampes jusqu'à l'entrée des galeries et ils ont adapté dedans des sortes de bouchons, de herses qui condamnent l'entrée de ces galeries pour pouvoir y déposer un matériel qui pour eux a une valeur absolument faramineuse. Il faut savoir que les embarcations démontées que l'on mettait dans ces galeries sont faites avec du bois d'importation qu'il faut faire venir de la côte du Liban. C'est donc quelque chose de très précieux et que la monarchie a du mal à se procurer. Donc, lorsque l'on quitte ce port, eh bien, on dissimule soigneusement toutes ces réserves de bois dans les galeries et on les scelle au moyen d'un système de condamnation qui n'a rien à envier à celui que l'on trouve dans les pyramides à la même période.
La découverte de textes est toujours un grand moment, ce n'est toutefois jamais très simple. En 2011, vous trouvez quelques fragments dans la descenderie de la galerie 6.
Oui, alors ça a commencé très très doucement puisque effectivement on s'est rendu compte lors de la première campagne, on a d'ailleurs travaillé en 2011, l'année de la révolution égyptienne, on a eu peur qu'il nous arrive ce qui était arrivé au pilote de Suez en 1956, mais à la fin de la campagne nous avons trouvé des petits fragments de papyrus très très, je dirais, cuits par le soleil, très mal préservés, sur lesquels on ne pouvait vraiment rien lire. Et progressivement on a fini par trouver des documents beaucoup plus intéressants.
Notamment en 2012, où vous mettez au jour un document unique, un document vierge.
Oui, alors ça, c'était peut-être une grosse déception. On a effectivement trouvé un papyrus encore roulé en partie, et en déroulant le papyrus, on s'est rendu compte que le papyrus n'était pas inscrit, peut-être simplement parce qu'on avait simplement un bout de marge du papyrus qui avait été oublié à un endroit donné. Mais on savait, c'était plutôt encourageant, on savait au moins ce qu'on ne savait pas au moment du début de la fouille, que l'on pouvait trouver du papyrus sur un site comme celui-là, ce qui est tout à fait inattendu au départ.
En 2013, c'est la découverte.
Alors c'est la découverte, la chance, qui d'ailleurs a continué puisqu'on a trouvé des papyrus toutes les autres années de fouilles successives. Mais en 2013, nous avons fouillé une esplanade qui se trouvait devant deux galeries creusées donc dans ce petit monticule calcaire, là où sont rangés les bateaux. Et nous avons commencé par trouver des petits bouts de papyrus, mais assez bien inscrits, mais de la taille d'un ongle au départ. Alors on a concentré très largement les moyens de fouille sur ce secteur. On a commencé à trouver... quelques semaines plus tard, des fragments de papyrus un peu plus conséquents, de la taille d'une main, qui étaient essentiellement des comptabilités. Et c'est à l'extrême fin de la fouille, les derniers jours, et quand il ne restait plus que ça à fouiller, que dans l'interstice laissé entre deux blocs de calcaire condamnant une galerie de stockage, nous avons trouvé un vrai dépôt de papyrus qui comprenait probablement à l'origine entre 30 et 40 rouleaux.
Ce qui est étonnant, c'est que ces papyries sont très près de la surface du sol.
Alors, ils sont près de la surface du sol dans un certain nombre de cas, plus profondément enfouis dans d'autres cas. Mais ce que nous avons pu déterminer, je dirais, après coup, et largement aussi d'après le remontage successif de ces papyrus, c'est que ils avaient été déposés sans doute sous la forme d'une cachette ou d'un dépôt dans une sorte de fosse, hein, au moment de la fermeture des galeries. Et cette cachette a été perturbée par la suite. Ce qui veut dire que une partie du dépôt initial a été éparpillée à l'avant de l'ensemble de ces galeries. Et effectivement, certains de ces rouleaux n'étaient enfouis que sous une dizaine de centimètres d'alluvionnement.
C'est dans cette fosse que vous faites donc la plus grande découverte, avec des textes encore attachés par des ficelles?
Alors effectivement, il y a encore des papyrus qui sont roulés et attachés par des ficelles. Mais le problème, c'est que ce n'étaient pas les mieux préservés. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte qu'on avait eu, d'une certaine façon, une double chance. La première était d'avoir découvert des papyrus à un endroit très excentré, où on ne s'attendait pas à trouver une documentation administrative de ce genre. Et la deuxième chance a été, paradoxalement, que le dépôt en question ait été perturbé au cours de l'histoire. La perturbation de ce dépôt, qui a été placé au fond d'une fosse, a permis de faire remonter dans le dépôt sédimentaire certaines parties de papyrus, qui sont restées pendant des millénaires dans un sol relativement bien drainé, et qui donc n'ont pas moisi en raison de l'humidité. Tout ce que nous avons atteint au fond de la fosse était au contraire très très largement pourri en raison de la stagnation de l'eau, parce qu'il pleut quand même régulièrement dans ces zones.
Pour les auditeurs du magazine d'archéologie de France Culture, je précise que nous évoquons avec Pierre Tallet la découverte des plus anciens papyrus d'Égypte rédigés sous le règne du pharaon Khéops. Comment fait-on pour conserver des textes aussi fragiles quand on les sort des sables?
Alors d'abord, c'est pas forcément si fragile que ça. Le papyrus est d'extrêmement bonne qualité, très résistant, mais évidemment il y a tout un protocole qu'il faut mettre en jeu au moment de la découverte de ces papyrus. Il faut les nettoyer évidemment le mieux possible, il faut les réhumidifier pour les rendre souples, il faut les mettre sous presse et les faire sécher à nouveau. Et ensuite, on les conserve dans des plaques de verre pour pouvoir permettre justement leur meilleure préservation. Et depuis maintenant 5 ans que ces papyrus ont été trouvés, on voit bien que le système de préservation que nous avons adopté permet de les conserver sans danger.
D'autres sites de la mer Rouge ont-ils livré de tels papyrus?
Alors justement, le site de Mersagawassis a livré quelques fragments de papyrus. Il y a en tout, je crois, 4 petits fragments de papyrus qui ont été trouvés à Mersagawassis. Alors, ce n'est peut-être pas terminé. La fouille pourrait continuer sur ce site-là et livrer encore ce type de matériel, mais ça n'est pas la proportion que l'on a au Wadi Jarf, puisque à l'heure actuelle, je pense que nous avons plus d'un millier de fragments de papyri, les plus petits de la taille d'un ongle, mais les plus gros faisant parfois 50 cm de longueur et 22 cm de hauteur.
En tout cas, Pierre Tallet, nous voici devant les plus anciens papyrus d'Égypte.
Alors certainement, et du monde aussi, puisque c'est l'Égypte qui a, d'une certaine façon, imposé ce type de conservation des informations. Ces papyrus sont datés, on a à plusieurs reprises une date précise du règne de Khéops, qui est l'année après le 13e recensement du grand et du petit bétail. Les recensements à cette période de l'histoire égyptienne ont lieu tous les 2 ans. Cela nous amène autour de l'an 26 ou 27 de ce roi Khéops, c'est-à-dire en fait au cours de sa dernière année de règne. Et on s'est d'ailleurs posé la question de savoir si l'abandon de ces papyrus à cet endroit-là n'était pas d'une façon ou d'une autre en rapport avec la disparition du roi et des modifications administratives qu'elle avait pu provoquer justement au cours même de la dernière mission sur le site du Wadi Jarf.
Vous avez combien de documents? J'ai lu 800.
Alors ce sont pas 800 documents, ce sont plutôt 1000 fragments. C'est-à-dire que à l'origine, il y avait peut-être dans cette fosse entre 20 et 30 rouleaux de papyrus qui nous sont parvenus dans des états plus ou moins fragmentaires. On en a retrouvé, on a pu en remonter de façon relativement complète au moins 4, et les autres peuvent être étudiés en rassemblant, en jouant à faire un gigantesque puzzle avec des centaines de petits fragments. Alors c'est un travail de longue haleine. Évidemment, on a commencé par travailler sur les documents les mieux préservés, les plus suivis, qui étaient les plus agréables à déchiffrer, bien entendu. Le déchiffrement avait même déjà eu lieu en partie au cours même de la mission. Maintenant, le travail est plus ingrat, mais il est tout aussi informatif, c'est-à-dire qu'on continue à travailler, à remonter les papyrus, et on découvre, chaque semaine, des informations intéressantes sur ce règne de Khéops.
Alors, vous les avez dénommés les papyrus de la mer Rouge?
Oui, alors c'était un petit clin d'œil évidemment au papyrus de la Mer Morte, beaucoup plus connu aujourd'hui.
Mais beaucoup plus récent.
Et beaucoup plus récent, mais qui n'ont pas forcément une importance, qui ont peut-être une importance plus importante pour beaucoup de gens. Mais effectivement, c'était tentant, puisque finalement, on est vraiment au-dessus de la Mer Rouge, de baptiser ces papyrus de cette façon-là.
Ces textes, ils se composent exactement de quoi ?
Alors on a pu, dans ce dépôt de papyrus, identifier que ce dépôt d'archives est composé à moitié de journaux de bord, c'est-à-dire qu'en fait, les équipes qui tenaient ces journaux notaient jour après jour leur activité au profit de la monarchie, et ce journal de bord qui est tenu par une équipe de bateliers qui travaille sur le site du Wadi El Jarf, mais qui a auparavant accompli plusieurs autres missions au bénéfice de la monarchie, eh bien on peut la suivre, on peut suivre son activité pendant sans doute à peu près une année, avant que les archives soient abandonnées sur le site du Wadi Jarf. L'autre moitié de cette documentation correspond à ces journaux de bord, ce sont des registres d'approvisionnement qui sont tenus par l'administration et qui enregistrent ce qui est livré à ces équipes d'ouvriers pour leur entretien. Il s'agit de produits alimentaires variés, mais aussi parfois d'outils, de différentes fournitures dont ils ont besoin pour leur travail.
Ce journal de bord, le journal de l'administrateur Merer, est un document bien sûr extrêmement rare. Possède-t-on de tels journaux dans l'Égypte ancienne ?
Alors on possède, ce journal de Merer est effectivement quelque chose de tout à fait exceptionnel et unique, c'est une des premières sources narratives véritables que l'on a pour l'Égyptien ancien, puisque il nous raconte chaque jour, de façon d'ailleurs assez concise, hein, c'est vraiment dans le style d'un compte-rendu militaire, l'endroit où il a passé la journée et l'endroit où il passe la nuit, mais on a vraiment quelque chose, hein, une structure narrative vraiment très développée déjà dans le cadre de ce journal de bord. Il s'agit vraiment d'un type documentaire que l'on connaît pour l'Égypte de façon régulière, puisque on a retrouvé sur d'autres papyrus bien plus tardifs de l'Ancien Empire, et d'ailleurs beaucoup plus fragmentaires, ce type de comptabilité du temps, en fait, qui permet aux équipes d'ouvriers de rendre compte à l'administration de leur activité.
Le fameux journal de la tombe de Deir el-Médine, par exemple ?
Alors, beaucoup plus tard encore, effectivement, on a ce type de documentation, cet enregistrement pour le journal de Deir el-Médine, qui date, lui, du Nouvel Empire. On est plus un millier d'années après le règne de Khéops. Mais l'idée est la même. On tient compte précis de son activité parce que il s'agit d'équipes d'ouvriers qui sont des salariés de la monarchie à plein temps. Ils doivent donc rendre compte de leur temps face aux autorités qui les emploient.
En tout cas, ces marins auraient fait du transport de blocs de calcaire vers la fameuse pyramide de Khéops, qui était à l'époque en cours de construction, c'est bien ça ?
Eh bien voilà, c'est ça. En fait, je pense que c'est l'un des éléments les plus émouvants de ce dossier, d'une certaine façon. Et je dois dire que toute notre équipe était extrêmement fascinée quand on a commencé à dérouler ces papyrus et à voir ce qu'il y avait dessus, puisque bien avant la présence de l'équipe sur le site du Wadi Jarf, plusieurs mois auparavant, elle avait effectivement travaillé près de la pyramide de Giza. Et elle était plus spécifiquement chargée de convoyer des gros blocs de calcaire qui étaient découpés dans les carrières de Toura, hein, qui se trouvent à peu près à 20 km de Giza, mais sur l'autre rive du Nil, et de charrier ces blocs jusqu'au chantier de la pyramide, qui était alors en construction. Et il est vraisemblable que ces blocs de calcaire sont employés majoritairement dans la construction du parement extérieur de la pyramide, qui était destiné à lui donner son aspect définitif.
Alors c'est bien sûr un chantier gigantesque, d'autant plus que nous sommes dans la dernière année du règne du pharaon Khéops.
Alors, ce qui veut dire que probablement la pyramide est encore en cours de construction, probablement à peu près au moment de la disparition du roi. Hein. On ne sait pas encore, hein. Peut-être qu'un jour on trouvera des attestations plus élevées du règne de ce roi Khéops. Mais pour l'instant, l'an 26 ou 27 semble être la fin du règne. Et à cette période-là, on peut dire que la construction de la pyramide est probablement encore engagée.
Un grand personnage du royaume est aussi mentionné, le demi-frère de Khéops.
Alors c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que dans ce journal de bord, je dirais très terre à terre d'une certaine manière, qui raconte de façon très répétitive les activités de ces équipes de bateliers, de temps en temps on peut rencontrer des éléments plus exceptionnels, et dans un cas, on voit que ce malheureux inspecteur Merer, eh bien, il se fait réquisitionner visiblement pour une corvée, et cette corvée lui est imposée par le demi-frère du roi qui s'appelle Henr A.F. et qui est, à cette période-là, on le savait déjà, sans doute le responsable du chantier de la pyramide. Donc, effectivement, le personnage est présent de façon assez logique dans une documentation qui concerne sa construction.
Pierre Thalès, ces textes ont une valeur historique absolument exceptionnelle. Vous avez fouillé 19 des 30 cavités. Que pouvez-vous encore trouver et surtout, qu'est-ce qu'il vous manque ?
Alors, je dirais d'une certaine façon, il nous manque rien. On a beaucoup, beaucoup d'informations sur le règne de Khéops. On aimerait avoir une idée peut-être du règne précédent, si jamais on pouvait accéder à une documentation correspondant au roi Snéfrou, dont on pense qu'il a pu travailler sur le site. On pourrait trouver d'autres papyrus avec encore plus d'informations. Ça, je ne l'espère même pas trop. Et puis, le rêve qui serait évidemment le nôtre dans ce contexte-là serait bien sûr de trouver les fameux bateaux dont on n'a que des petits bouts pour l'instant, si jamais les Égyptiens avaient été assez bêtes pour en oublier un complet dans une galerie, ce que malheureusement nous ne croyons pas.
Pierre Tallet, merci beaucoup. Je rappelle que vous venez de publier donc Alifao, les papyrus de la mer Rouge, le journal de Merer. Carbone 14 était réalisé par Vanessa Nadjar à la technique Bruno Mourlan et avec bien sûr la contribution d'Anne-Catherine Lochard. Vous pouvez écouter ou podcaster Carbone 14 sur le site franceculture.fr ou retrouver plus de 300 archives sur le site inrap.fr.